Il y avait deux niveaux de pratique dans le bouddhisme des débuts, moines et nonnes d'une part, laïcs de l'autre. Si vous visitez un pays dont la culture est celle de la tradition bouddhique Theravada, comme la Thaïlande, dont les habitants pratiquent encore de nombreuses coutumes provenant des débuts du bouddhisme, vous pouvez vous faire une idée de l'impact que le bouddhisme a dû avoir sur la société indienne de l'époque. Les membres de l'ordre bouddhiste, le Sangha, étaient dépendants des aumônes que leur donnaient les villageois et les habitants des villes pour couvrir leurs besoins de substances de base, alors que les laïcs dépendaient des membres du Sangha pour leur instruction spirituelle et l'exécution de rites religieux. On voit encore aujourd'hui cette interaction, même dans une ville qui a trop grandi, comme la capitale de la Thaïlande, Bangkok. Tôt, chaque matin, les moines sortent des temples du voisinage avec leur bol à aumône pour se rendre dans les rues de la ville, où des membres de la population locale les attendent pour leur faire des offrandes de nourriture. Après que les moines ont terminé leur tournée d'aumône, ils retournent dans leur temple. Plus tard, certains membres des familles ayant donné de la nourriture pourront se rendre à l'un des temples locaux pour demander aux moines des prières en leur faveur ou de l'instruction. Un élément important de cette interdépendance entre les moines et les laïcs, c'est ce qui est appelé la collecte des mérites. Comme l'a enseigné le Bouddha, les actions vertueuses telles que la pratique de la générosité créent une provision d'énergie positive ou mérite, punya en pali comme en sanskrit. Cette énergie méritoire apporte des résultats positifs dans l'avenir conformément à la loi karmique. Voir le chapitre 12 pour en savoir plus sur le karma. La personne à qui vous présentez des offrandes, l'objet ou le bénéficiaire de vos actions vertueuses est appelé votre champ de mérite, et plus votre champ est noble, plus vous créez de valeur. Comme les moines et les nonnes dans les rares endroits où leur lignée existe encore, ayant reçu l'ordination complète comptent parmi les plus dignes de tous les champs de mérite, leur faire des offrandes représente un moyen puissant de gagner rapidement de grandes provisions d'énergie positive. En conséquence, lorsqu'une femme debout devant sa maison place de la nourriture dans le bol à aumône d'un moine d'un temple avoisinant, elle ressent que c'est elle-même qui bénéficie véritablement de cet acte de générosité, parce qu'elle reçoit le mérite. Et le mérite qu'elle recueille, elle espère qu'il lui apportera le bonheur à l'avenir, et en particulier une renaissance dans une vie aux circonstances plus favorables. Voir le chapitre 13 où nous expliquons les divers royaumes dans lesquels vivent les êtres. N'oubliez pas. Cet exemple de l'interaction entre les moines et les laïcs illustre joliment deux niveaux de pratiques bouddhistes qui coexistaient au début du bouddhisme en Inde et qui existent encore aujourd'hui en de nombreux endroits du monde bouddhiste. À un niveau de la pratique, on trouvait le renoncement de la communauté monastique. Les moines et les nonnes, en principe, ont abandonné leur famille, leurs biens et leurs ambitions matérielles pour se consacrer à leur quête de la libération complète de la souffrance. Ils ont rasé leur tête et revêtu des robes en éliminant, ou du moins en réduisant au minimum, tout ce qui dans leur vie pourrait les distraire de leur objectif ultime, et ils se consacrent avant tout à la stricte observation des préceptes moraux. Voir le chapitre 12 pour en savoir plus sur ces préceptes. Et à la pratique de la méditation. Le chapitre 7 traite en détail de la méditation. L'autre niveau de la pratique, considéré traditionnellement comme inférieur sur le plan spirituel, était celui des nombreux disciples laïcs. Bien que certains laïcs aient toujours pratiqué la méditation, on pensait que les personnes qui choisissaient de mener une vie de couple ordinaire et d'élever des enfants laissaient passer la chance de gagner la libération dans la présente vie. Faute de mieux, la pratique d'un laïc se limitait principalement à amasser suffisamment de mérite, en grande partie en apportant son soutien à ceux qui se consacraient au mode de vie monacal, de telle sorte qu'ils puissent accéder au bonheur plus tard dans cette vie et obtenir une renaissance favorable à l'avenir. Et si la renaissance était particulièrement heureuse, alors on pourrait peut-être avoir la possibilité de se consacrer entièrement aux pratiques pures d'un membre du Sangha ayant reçu l'ordination complète.
Dans quelle mesure le bouddhisme d'origine est-il vraiment d'origine? Certains adeptes de la tradition Theravada se plaisent à parler de cette tradition comme du bouddhisme d'origine, ce qui implique qu'elle est exempte d'additions ultérieures, et donc de possibles distorsions, qui affectent d'autres traditions, en particulier la tradition Mahayana. Et même les bouddhistes des diverses traditions du Mahayana reconnaissent que ces écritures en pali constituent une réflexion précise de ce que le Bouddha pensait. Souvenez-vous que le Bouddha ne parlait en fait pas en pali. Est-ce que cela signifie pour autant que le canon pali est tout ce que le Bouddha eut à dire? Souvenez-vous que le Bouddha enseigna durant 45 ans une très grande diversité de disciples et que ses discours furent mémorisés et transmis sous forme orale uniquement pendant plusieurs centaines d'années. Au vu de ces facteurs complexes, certains érudits se sont demandé si l'on peut véritablement être certain de ce que le Bouddha a enseigné. Des désaccords et une polémique semblable font encore rage au sujet de l'enseignement du Christ. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le Theravada n'est qu'une des 18 écoles au moins qui ont transmis leur version des enseignements du Bouddha pendant de nombreux siècles. Faites la somme de tous ces facteurs et vous verrez qu'il est improbable qu'aucune des traditions bouddhiques, aussi anciennes soient-elles, puisse avoir réussi à conserver et à préserver l'ensemble de l'enseignement original de Shakyamuni. À titre de comparaison, prenez de nouveau la tradition chrétienne. Bien que toutes les confessions chrétiennes s'accordent sur le contenu du Nouveau Testament, chacune d'elles a ses propres traductions préférées en français de certains passages et ses propres interprétations du sens véritable du texte. Mais à moins d'être partisan, il est difficile de considérer une interprétation donnée comme le seul évangile tel que Jésus lui-même l'a prêché.